Merci beaucoup. Je vous remercie de l'invitation et la répétition de l'invitation. Et j'espère que de répondre à cette demande de cohérence en espérant dans une cohésion des propos. Voilà. Alors, je vais commencer par mot latin, c'est-à-dire « eri dicebamus », c'est-à-dire c'est ce qu'on avait dit hier. Et on avait dit hier, c'est ce qui est dû à Roland Barthes. Alors, je cite une phrase de Barthes qui m'a beaucoup plu. Et il parle des arbres. Et il dit que ce qu'il aime bien, et moi je pense que ça aurait pu être son blason, c'est le palmier. Je cite. « Les arbres sont des alphabets. Les palmiers sont les plus beaux. Dès l'écriture profuse et distincte comme léger de ses palmes, il possède l'effet majeur, la retombée. » Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Quelles sont les retombées de Barthes ? Voilà. Alors, permettez-moi donc de commencer par un épisode personnel, c'est-à-dire une des retombées de Barthes, c'est ma carrière. Et j'ai suivi le séminaire de SZ, il y a belle lurette, comme on dit en français, et Barthes s'est très vite aperçu que j'ai des pitres qualités littéraires. Et il m'a dit, mais pourquoi vous n'abandonnez pas mon séminaire et vous n'allez pas suivre le séminaire de Algirdas Julien Grémas ? Voilà, il a orienté ma carrière et il avait compris que vous avez immédiatement une carrière sur la sémiotique avec laquelle j'ai orienté ma recherche avec Umberto Eco, Grémas et d'autres. Et dans l'espoir que je continue à poursuivre, qu'entre la philologie et l'herméneutique, il y a la place pour une sémiologie. Voilà. Alors, donc, c'est dovuto à Barthes, c'est ce qui est dû à Barthes. Et donc, vous savez que dans les dédicaces, on ne fait que rendre ce qu'on a reçu déjà. Donc, c'est comme ça que je vais en parler aujourd'hui. Alors, question. Il a été question, évidemment, de la mort de Barthes. Et il y a deux interprétations possibles de la mort, il y en a plusieurs, mais enfin, une c'est « morto io, morti tutti », disent les Italiens, c'est-à-dire « si je suis mort, c'est fini ». Et l'autre, c'est que la mort n'est que l'interruption d'un projet que d'autres peuvent poursuivre. Alors, je crois que Barthes a eu plusieurs projets, et il y en a un que je vais poursuivre, et c'est comme ça que je crois qu'il y a, c'est une façon de dire que la mort n'aura pas seigneurie. C'est-à-dire que c'est son projet d'une critique pathétique. Les Italiens disent pathémique, pathéma. Voilà. Voilà. Et donc, je vais faire ça, comme on a dit, en lisant quelques pages de la Chambre claire, cette palinodie du chagrin. Et je cite la phrase d'un chercheur qui a travaillé sur Barthes et qui a dit « Tout dans la Chambre claire doit être pris au sérieux, chaque mot, chaque allusion ». Alors, donc, je me suis décidé à faire ça et je vais commencer par les fragments, donc 47 de la Chambre claire. Alors, Roland Barthes essaye de rendre la spécialité de la photo. Alors, cette nouvelle forme d'hallucination, je cite, « une hallucination tempérée, modeste, partagée, ce n'est pas ça, mais cela a été », il ajoute, un médium bizarre qui engendre des images folles frottées de réel. Et je trouve ceci. Les soirs même du jour où j'avais encore regardé des photos de ma mère, qui venait de mourir, j'allais voir avec des amis les Casanova de Fellini. J'étais triste, le film m'ennuyait. Mais lorsque Casanova s'est mis à danser avec la jeune automate, eh bien, Barthes se dit complètement bouleversé. Je pensais alors irrésistiblement à la photographie et à son lien avec la folie. Voilà donc, étant donné qu'il a repris ces phrases plusieurs fois, je vais le dire, je voudrais quand même vous montrer cette petite séquence, pardonnez-moi, une séquence de 2 minutes où je ne vais pas intervenir, il n'y a pas de mots. Je dirai seulement un moment, voilà. Et je vous dirai pourquoi. Ça, c'est comme ça. Donc, je crois qu'on peut y aller. N'oubliez pas qu'il reprendra ses textes plusieurs fois dans la présentation des romans. Tous les Casanova de Fellini que je n'aime guère. et sauvé par ce que l'automate a fait tilt en moi, bien entendu, hors de toute acception de goût culturel. Voilà, donc Barthes reviendra souvent sur dans ses papiers, dans ses cours, sur les détails concrets, précis de la jeune automate. Minceur, ténuité de la silhouette, c'est lui qui parle, peu de corps sous la robe aplatie, les gants fripés de filoselles blanches, les plumets de la coiffure légèrement ridicules, les visages peints et cependant individuels, innocents. Désespérément inerte et cependant disponible, offert, aimant, selon un mouvement angélique de bonne volonté. Il reprend à nouveau son phare, sa minceur, son plumet, ses gants blancs mal ajustés, le geste du bras trop. Voilà, ça c'est Barthes sur ses textes. Alors moi j'essaye maintenant une sorte d'exercice de critique pathétique. Qu'est-ce que c'est qu'une critique pathétique ? Barthes, c'est un des projets de Barthes, qui ne croyait pas, disait-il, à la séparation de l'affect et du signe. Pour lui, l'affect, c'est un garant de l'être, l'amour, la compassion, le deuil, l'élan, le désir, et l'occasion donc de reformuler une critique qu'il a formulée dans des projets de nombreux livres. Vous savez que Barthes a fait des projets de livres, il a fait une liste de ses projets de livres. Il est très drôle par ailleurs. Il y avait l'ifologie aussi, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Mais aussi une discipline sémiotique diaphorique qui use l'intensité comme l'objet de sa propre réflexion et comme aspect de son propre faire. Voilà. Pensez à une linguistique de la valeur, de la guerre des sens. À la fin de son enseignement de sémiologie littéraire au Collège de France, ici, dans le cadre d'une aventure anthropologique, c'est lui qui parle, voilà donc un programme d'une nouvelle lecture qu'il voulait topologique et perspectiviste. C'est lui, toujours. Je cite. « Théoriser une lecture à partir des moments forts, pathétiques, non pas des unités logiques, ce qui serait une analyse structurale, mais affectives. » La possibilité d'une lecture de la valeur de l'œuvre selon la force de ces moments de vérité, au risque, tenez-vous bien, de ruiner l'œuvre pour la faire vivre. Alors, ça, c'est intéressant. Faire vivre une œuvre en la ruinant. Alors, ça, je prends le risque de faire la même chose. Alors, donc, la référence aux Saussures est la même. Je suis saussurien, abenveniste, j'aime benveniste, etc. Mais il ajoute une valeur de force et d'intensité. Dit-il, une sémiologie de force, une philologie active du discours. Donc, il oppose d'un côté la forme, d'un côté, dans les discours linguistiques et visuels, l'opposition entre forme et force. Donc, des formes de relations, il dit, ou plutôt ce que les autres appellent forme, que j'éprouve, moi, comme force. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant pour mon exposé, enfin, je le pense, c'est que le modèle fondamental, ce n'est plus la linguistique, mais la musique. Et il dit, par exemple, que la linguistique est larguée comme une fusée porteuse. Et après, ce sera le programme de cette critique pathétique sera musical. Voilà. Alors, commençons rapidement. Les moments de vérité. C'est, on en a beaucoup parlé, Philippe, d'autres, beaucoup, sur la question du gestus pathétique, pour lui, qui était lié à l'amour et à la mort. C'est différent du gestus moral de Diderot, de celui social de Brecht. C'est le gestus pathétique. Moment de vérité qui n'est pas fondé sur des systèmes philosophiques et qu'on produit non pas dans le réel ou dans le symbolique, mais dans l'imaginaire. Voilà. Il donne des exemples. Vous savez, Barthes en a donné beaucoup. Les haïkus japonais, les petits poèmes japonais, les tilts, comme propédeutique au moment de vérité, les haïkus, une mobilité vive qui aurait son propre un événement intérieur, une résonance qu'on ne peut pas développer ni rêver, mais qui peut susciter un satori, c'est-à-dire un passage d'un vide qui traverse le sujet. Pas l'illumination, parce que le sacre est nullité, dit Barthes, mais un séisme léger qui fait vaciller la conscience et changer l'affect. Voilà. Il donne plusieurs exemples. Les épiphanies joïciennes, mais passer la chose, mais les affects. Proust et sa grand-mère. La mère de Gide, dans « Et nunc manet in te ». Pour moi, la plus... Évidemment, je m'appelle Paolo, je suis de Rimini, donc pour moi, l'exemple le plus touchant, c'est Paolo et Francesca. Vous vous rappelez que Dante s'évanouit devant les pleurs de Paolo, qui ne parle pas, par ailleurs. C'est Francesca qui parle. Voilà. Quels sont les opérateurs heuristiques de cette critique pathétique? Donc, on l'a beaucoup dit, la différence entre studium et punctum. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bal de Casanova et de la jeune automate est un punctum par excellence. C'est peut-être le punctum du... Alors, vous savez que la chambre claire est très riche en dichotomie, c'est la trace structuraliste. Et il formule cette relation binaire. Et le punctum, c'est l'effet de la prise des sens, des formes et des forces de l'œuvre. C'est l'affect du sens. Voilà. Alors, je vais rappeler des dichotomies précédentes, la denotation et la connotation, les sens obvis et les sens obtus. Voilà. Mais ce qui est plus drôle, j'ai retrouvé chez Barthes, c'est l'opposition qu'il avait imaginée pour ses cours. Tu le sais mieux que tout autre, entre les tactèmes et les explosèmes. Vous savez que Barthes aimait beaucoup les néologismes. Les tactèmes, c'est l'idée que finalement, c'est la dénotation, c'est l'essence obvie. La pensée calculée de la place par rapport à l'autre. Finalement, tout est tactique pour Barthes dans la relation aux autres. Mais après, il y a les explosèmes, c'est-à-dire la levée miraculeuse, exceptionnelle de la tactique. Voilà, c'est dans « Comment vivre ensemble ». Donc, ce punctum est une notion névralgique, une épiphanie passionnelle du détail bouleversant. Et c'est aussi un signe, mais un signe impérieux, qui a une sorte de force d'expansion métonymique. Vous prenez ce signe impérieux qui vous touche, un moment de vérité, il peut se transformer en thème, mais à travers une sémantique de l'expansion, c'est-à-dire quelque chose vous touche, l'expansion produit un thème. Voilà. Alors, l'étudium, c'est le contraire. Et c'est important, vous voyez, parce que Barthes, en parlant de cette séquence que vous avez vue, il dit que le film de Fellini, c'est du studium, c'est de la culture. Ça ne lui plaît pas. Mais ça, c'est le Pantheon, ça le touche. Le studium, c'est rien, c'est un consensus préétabli entre créateurs et consommateurs. Il n'y a de l'érotique que dans les failles. Barthes, je cite, « La culture ne saurait donner que du plaisir, pas de la jouissance, qui est, elle, inculturelle et sauvage. » Donc, ce qu'il trouve dans cette danse, c'est la dimension inculturelle et sauvage. Alors, l'effet tilt du bal de la gêne automate, voilà, je voudrais essayer de l'analyser maintenant avec vous pour montrer, au risque de démembrer le texte, hein, c'est un risque qu'il veut assumer. Alors, première décision, je vais appeler ça d'une façon un peu ironique, photogrammatologique. C'est-à-dire, pour lui, on en a beaucoup parlé. On a fait un colloque sur les cinémas dans lequel on a expliqué que Barthes n'aimait pas trop les cinémas, qu'il appelait un ruban bavard. Et le cinéma, pour lui, c'est culture. C'est séquence, imaginaire qui vous prend, etc. Tandis que la photo serait sans culture. Oui, mais c'est vrai, mais vous avez vu qu'il doit donner un exemple, il donne un exemple d'une séquence de cinéma. Donc, la question est intéressante. Il transforme une séquence dans un point, dans une photo. Hein. Donc, il transforme le studium en Pantheon. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ça. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Pour lui, le cinéma exclut par une fatalité de nature tout passage à l'acte. L'image est absence irrémédiable du corps représenté. Tandis qu'au théâtre, vous pouvez imaginer de monter sur scène et de toucher l'acteur. Pour Barthes, ça, c'est fondamental. Mais qu'est-ce qui se passe dans les photogrammes? Eh bien, il dit, c'est comme si les signifiants et les signifiés étaient collés l'un à l'autre. Donc, qu'en réalité, dans les photogrammes, on pourrait toucher, on pourrait entrer dans la photo. Voilà, ça, la photo, c'est tirée du théâtre, d'une certaine façon. Voilà. Alors, j'essaye de montrer, si vous voulez, comment il va retoucher sa photo d'une façon pathémique. Alors, je n'insiste pas beaucoup, mais ma culture sémiologique a tendance à regarder dans les passions une dimension temporelle. Passion, c'est une maladie du temps, on disait autrefois. La dimension tensive, la dimension esthésique, perceptive. J'arrête sur celle-là. À la vision du bal de Casanova avec la jeune automate, dit Barthes, je suis touché par une acuité atroce et délicieuse. Je ressens les effets d'une drogue étrange. Voilà, voilà l'esthésie dans le corps. Voilà. Alors, vous pouvez avant tout vous poser une question qui est un peu curieuse. Pourquoi Barthes n'aime pas Fellini? Pourquoi il n'aime pas Casanova? Pourquoi il aime seulement cette séquence? Pourquoi est-ce qu'il pense que... Alors, j'ai contrôlé, mais il parle très bien de Fellini. Par exemple, l'hermaphrodite du Satyricon par sa peau de lait. Et le labyrinthe à ciel ouvert. La baleine, qui lui rappelle Michelet, par ailleurs. Et pourtant, il disqualifie toute l'activité culturelle. Ce n'est pas le cas de tous. Hein. Par exemple, Simenon, qui était très grand ami de Fellini, trouve que ce film lui rappelait Goja. Bon, c'est son problème. Tandis que Kundera a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il avait dit que Fellini avait découvert une chose que Kafka connaissait, c'est-à-dire les comiques de la sexualité. Et je ne vous ai pas montré la suite. Il y a un moment dans lequel Casanova fait l'amour avec la poupée. Mais avant de faire l'amour, lui dit quelques vers de Pétrarque. Les comiques de la sexualité, évidemment. La poésie, ben oui, dans les films de Casanova, on cite du Tasse, il y a plusieurs vers, Arioste, Pétrarque, je l'ai dit. Et quand Barthes dit les mouvements angéliques de bonne volonté, n'oubliez pas que Pétrarque cité, c'est l'angélique rire. Hein, donc, il l'a bien entendu, mais il n'aime pas. Et aussi Zanzotto, un des meilleurs poètes italiens, sûrement, qui lui a fait les vers initiaux du Casanova. Bon, laissons tomber. Il n'aime pas. nous avons le droit de mettre notre propre moment de vérité. Maintenant, regardons cette rencontre Fellini-Roland Barthes. Est-ce que Barthes s'est aperçu, je suis sûr qu'il s'est aperçu, du fait qu'il y a les représentations de la mort de la mère dans Casanova? Je cite là Proust, il faut se départir du côté de la mer, donc on ne départ pas là. Et vous vous rappelez peut-être, il y a un moment dans lequel ils sont tous au théâtre. Le théâtre, les lumières s'éteignent, il y a une loge noire, et de la loge noire sort la mère de Casanova. Lui, il la prend sur ses épaules, il la met dans une carrosse noire, elle part, elle parle, mais il ne l'entend pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Barthes a vu la mort de la mère dans Casanova. Mais ça ne l'a pas touché. Voilà, moi ça m'a touché, évidemment. Tout de suite après, le bal avec le jeune automate. Une réflexion intéressante qui est, à mon avis, a fait le fond de la recherche, du choix de Barthes. Chez Fellini et chez Barthes, il y a une profonde réflexion. Barthes a travaillé beaucoup sur le théâtre, vous le savez, sur le rôle de l'acteur. Alors, vous verrez que Fellini a dit très souvent que son Casanova était un Pinocchio, un gros Pinocchio, qui, avec un nez phallique, si je veux dire, et qui se promenait à travers la vie et les femmes. Mais il y a quelque chose de plus intéressant. C'est quand Barthes parle du théâtre Bundraku, et il fait une confrontation, c'est évidemment dans l'Empire des Signes, il fait une confrontation entre les marionnettes de l'Orient et les marionnettes de l'Occident. Il parle de l'automate. Ce morceau de corps rigide de l'acteur, une discontinue corpusculaire des mouvements fétiches, etc. Ce qui lui procure, là je cite, la vue du Bunraku japonais, lui procure une exaltation aussi spéciale peut-être que l'hyperesthésie intellectuelle que l'on attribue à certaines drogues. Exactement ce qu'il dit pour le Casanova. Exactement comme le bal de la jeune automate. Alors, revenons maintenant à l'autre gros, disons, pantin, qui est Casanova pour lui, qu'il appelle il vecchio clown, le vieux clown, le pagliaccio, comme il l'appelle comme ça. Ça, c'est Fellini qui parle de Casanova comme un vieux clown et un pagliaccio. Vous vous rappelez, peut-être vous l'avez vu bien, et Casanova invite la poupée, il l'embrasse, et il la touche, il voudrait la caresser, la main, les cheveux. Elle ne veut pas, elle veut danser. Elle lui apprend à être automate. Et il accepte de devenir automate pour danser avec l'automate. Vous voyez, donc c'est ça le moment fondamental dans lequel Casanova devient automate lui aussi. Et donc c'est la danse des deux automates. C'est la transformation que la femme automate impose à l'homme séducteur automate, de danser comme elle veut, voilà. Alors, je trouve que ce n'est pas inintéressant, que peut-être ça a intéressé aussi Barthes, mais on n'en parle pas, mais nous en parlerons maintenant tout de suite. Maintenant, parlons du parcours pathémique de Barthes. Barthes part de la nuit, il s'ennuie beaucoup, il est triste, mélancolique, il a regardé les photos de sa mère. Et finalement, il voit ça. Donc, il y a une transformation de l'affect. Comment se fait cette transformation de l'affect, ces états d'âme qu'il change? Bon, au début, c'était la mélancolie, évidemment. Et il y a un moment dans lequel il dit, est-ce que je suis amoureux de cette photo, de la photo de la jeune automate? Donc, il se pose la question de l'amour. Donc, vous voyez, donc, transformation passionnelle, on commence par la mélancolie, la tristesse, et par la vue de l'image de la mère, et après, on passe à une autre passion. Quel est l'opérateur des transformations des passions qui permet à Barthes de passer de la tristesse, de la mélancolie, à l'amour et à une autre passion plus importante qui sera la pitié. Voilà, je me pose cette question-là. Comment ça se fait qu'on peut passer de la nuit à la tristesse à l'extase? Alors, l'amour. Il commence à se poser la question, Barthes, en disant, je suis peut-être amoureux de cette photo. C'est l'amour sémurge, comme disait Deleuze. Alors, comment convertir les corps fétiches en corps aimables? Ça, c'est toujours Barthes. Comment est-ce qu'on peut passer du chagrin à l'amour? Alors, je crois que je ne reviendrai pas sur l'affaire de l'amour chez Barthes, après tout ce qu'on en a dit. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il y avait deux formes d'amour pour Barthes. Enfin, j'ai simplifié beaucoup. D'un côté, l'amour maternel, comblement, gratification. Et de l'autre côté, l'amour passion, romantique, déchirant. Voilà, ça c'est... Je trouve que c'est vraiment important. Mais non, l'opérateur. L'opérateur qui transforme l'amour qui aurait pu, mais qui n'est pas, en pitié. Alors, j'ai une réponse. C'est la musique. Or, Barthes ne parle absolument pas du fait qu'il n'y a... On ne parle pas dans cette séquence. Il n'y a que de la musique. Et il y a la musique, essentiellement. Alors, qu'est-ce que c'est que la musique? Alors, je... Vous savez, le côté ennuyeux, pédant de sémioticien, c'est... Mais non, on va définir... J'ai trouvé une seule définition, qui est celle de Deleuze, introduire des rapports humains dans la matière sonore. Voilà, introduire des rapports humains dans la matière sonore. Voilà, alors donc je vais parler de ça, de la musique, ce sera la fin de mon exposé. Et je vais donner un titre d'ailleurs, « Les dissonances de l'amour de la mère morte ». Voilà, ça c'est une façon de poser. Voilà, ce qu'il appelle, lui, les retentissements de la vérité, et, ou encore mieux, ça je cite encore, les différentiels mélodiques des intensités. Vous vous rappelez qu'il a dit au début que la nouvelle critique pathétique aurait comme modèle non pas la linguistique, larguée comme une fusée porteuse, mais la musique. Alors, les photogrammes sont silencieux, vous l'avez vu. Mais Barthes ne peut ne pas avoir écouté les petites valses diaboliques qui accompagnent. Pourquoi diaboliques? Ben, c'est très simple. Alors, c'est la fusion de deux œuvres du musicien préféré de Fellini, qui s'appelait Rota, qui est un excellent musicien par ailleurs. Il y a deux motifs. Le premier, c'est le piano mécanique, peu sombre, qui est attribué au personnage de Casanova. L'autre, c'est la jeune automate, qui est accompagnée par un glockenspiel. C'est des motifs séparés, mais qui se superposent au moment dans lequel ils se séparent ou ils se rencontrent et s'embrassent. L'automate, voilà, commence à bouger parce que la musique commence. L'action est dictée par la musique. Le texte musical est assez complexe, quoi qu'on le croit. Je ne veux pas vous ennuyer avec des détails, mais si dans les conversations suivantes, s'il y en aura, j'aimerais beaucoup. Le texte musical commence par un attacco de tarantella. Suivent trois thèmes, dont un est une variation de l'autre, qui ont comme élément fondamental ce qu'on appelle la musique, avec qui souvent a, comme vous savez, une terminologie italienne, n'est-ce pas? Je ne vais pas insister. Il tritono, triton, qui n'est pas un animal mythologique. Les tritons, c'est la dissonance des dissonances en musique. C'est ce qu'on appelle la musique diabolus in musica. C'est-à-dire, c'est une aberration interne à l'échelle diatonique, classée parmi les illusions et le paradoxe auditif, comme les mots fantômes. Les tritons est la déformation de quelque chose qu'on connaît, c'est l'échelle mineure naturelle, voilà. Mais il y a deux notes, et il peut être joué à l'envers. Il y a problème de rythme, d'orchestration, il n'y a rien de plus unheimlich qu'en Italie on traduit il perturbante, mais qui en français on traduit l'inquiétante étrangeté. Il y a plusieurs loops, il y a un effet cumulatif des répétitions mécaniques, de suspension et de tension et d'ambiguïté, de réversibilité. Il y a les traits sémantiques, c'est le maximum des différences musicales qui s'introduisent deux fois dans ces courts, très très courts et répétitifs loops. Voilà, des traits sémantiques qu'il partage avec celui porté par les poupées mécaniques, son mouvement mécanique et répétitif, la pirouette, jusqu'à la suspension du jugement sur sa nature ambiguë, sur sa vie et sur sa non-vie. C'est un effet. Quel effet a eu sur Barthes ? Cette musique va dilater l'amour refusé en pitié, et aussi dans le passage à l'acte, entrer dans la photo, toucher la photo elle-même. La pitié. Qu'est-ce que c'est que la pitié ? Alors, encore une fois, la nuit nous. Non, je cite Barthes. Ces discours de l'affect, cette voix un peu bête des sentiments s'ordonnent autour du thème de la pitié, ces sentiments qui doivent animer l'œuvre du côté de l'amour. Voilà. Barthes reconnaît que le mot pitié est une parole surannée. Mais, il dit, il désigne ce qui va mourir, émotion violente de pitié, compassion, coalescence du sujet qui souffre, du sujet qui lit. On les retrouve chez Michelet, l'auteur privilégié de Barthes. Il a passé toute sa vie en s'étonnant que les Français ne veulent plus lire Michelet. Et il dit, il y a un étroit rapport entre l'amour et la pitié, dit Michelet. Il n'a jamais cessé d'échanger l'un avec l'autre, tous les automatismes de fusion et d'enveloppement qu'il appelle pitié. Ça, c'est sur Barthes. Michelet dit, dans La Mer, c'est le couronnement divin de la vie. Voilà. Donc, cette idée de. En plus, ce rapport symbiotique entre amour et pitié a toujours à voir avec la femme chez Michelet. Mais ça, c'est un autre problème. Pitié. Un amour secondaire. Un premier mouvement vers l'autre qui n'a pas de. Ce n'est pas la gratitude, ce n'est pas le pardon, ce n'est pas les remords, qui sont des affects conditionnels. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais Barthes veut élever cet amour de pitié jusqu'à une folle vertu, hors de toute commisération pour la finitude, liée occasionnellement au chagrin, au malheur, liée à la bonté, à la capacité de faire un tu, mais pas simplement un tu du prochain, mais un autre généralisé avec lequel échanger un don sans contrepartie et sans fin, sorte d'humilité réciproque. Ça rappelle la pitié cosmologique de Schopenhauer. Mais ça, ce n'est pas intéressant, vous voyez, ça, c'est des concepts. Mais non, comment est-ce qu'il trouve, Barthes, ça ? Ben, il les trouve quand je vous ai dit, voilà. C'est le moment dans lequel Casanova accueille dans ses bras, là, et pendant un long moment, la jeune automate qu'il identifie à sa mère. Ça, c'est l'imago pietatis. C'est-à-dire, non pas la mère qui tient le fils dans les bras, que nous voyons toujours dans les pensées à Michel-Ange, naturellement, mais de l'autre côté, c'est le fils qui tient la mère dans ses bras. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle techniquement il compianto, la déploration. Mais vous savez que Barthes a écrit dans sa vie qu'il y a eu un moment de votre vie dans lequel vous êtes obligé. Ah, ça c'est moi. À tenir votre mère dans les bras, comme une fille. Bon, on ne peut pas faire de la critique pathétique, naturellement. Alors voilà, on fait des histoires une icône, il transfère l'émotion de la peinture à l'observateur, et donc, à ce moment-là, on peut entrer en scène. Cet affect de pitié lui permet de rentrer dans la photo, comme au théâtre, et pas au cinéma. Là où les signifiants et les signifiés collent les uns aux autres, on peut rentrer, la photo le mène au théâtre, et voilà. Et ça, ce sera ma conclusion. Ma conclusion est une citation de Critique et Vérité. Il parle de Kafka. Il dit « En effaçant la signature de l'écrivain, la mort fonde la vérité de l'œuvre qui est énigme. » Merci.
Merci beaucoup, Paolo, de cet très, très bel exemple de critique pathétique menée, en effet, jusqu'au bout. Je crois que c'est vraiment une illustration très, très, très belle de la reprise d'un projet et sa prolongation. Et donc, c'est vraiment le type même de discours sur Barthes qui me paraît tout à fait exemplaire. On a du temps, donc, pour discuter de ton intervention. Je vais peut-être dire quelques mots
avant.
Alors, en effet, ce qui est juste un tout petit mot, hein, pour lancer peut-être la discussion qui va venir, ce chapitre 47, ou fragment 47, en effet, est très important parce que c'est la dernière image dont parle Barthes, de la chambre claire. Or, comme tu l'as signalé, c'est en effet non pas une photographie, mais une image extraite d'un film qui... Alors, c'est très intéressant parce que ça complexifie profondément le stéréotype ou la doxa. Barthes n'aime pas le cinéma, il aime la photo contre le cinéma, en oubliant que la première phrase de la chambre claire, c'est en effet dire « je décidais d'aimer la photographie contre le cinéma sans pouvoir néanmoins les dissocier ». Et je crois que, comme toujours chez Barthes, ce sont les incidentes qui sont peut-être les plus importantes, sans pouvoir les dissocier. Et en effet, cette dissociation est impossible, au point que la dernière image n'est pas une photo, mais une sorte de photogramme créé par le regard de Barthes. Ce n'est pas un photogramme réel. C'est pendant la production que l'hallucination de la perception de l'image par Barthes crée le photogramme. Il immobilise, en effet, le flux du film et le transforme lui-même en photogramme. Donc, le photogramme, c'est une création du regard, en quelque sorte, et qui montre, en effet, ce caractère indissociable qu'il y a entre photographie et cinéma, au sens où c'est subjectivement que Barthes produit du photogramme à partir du cinéma. Et donc, je crois que c'est vraiment très important de travailler ce chapitre 47 parce qu'il est quasiment final. C'est l'avant-dernier chapitre. Le dernier sera une conclusion, une sorte d'épilogue un petit peu, je dirais, qui décale, au fond, le livre. Barthes va vers des généralités. Mais ce chapitre 47 est vraiment, à mon avis, le vrai épilogue. Et juste un tout petit mot encore, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, chaque fois que Barthes parle de la photographie dans son itinéraire, c'est en réalité toujours une liste cinéma qui est derrière. Par exemple, à l'époque des mythologies, Barthes ne traite pas la photographie réellement. Il en parle justement comme du studium idéologique sur un mode. Mais la photographie qu'en revanche il aime, c'est celle de Greta Garbo, et c'est une photographie extraite du film La Reine Christine, précisément, qui est aussi un photogramme. Et puis, il y aura Eisenstein, la notion de vide obtus qui reprend l'opposition studium punctum, qui est une sorte d'anticipation sur l'opposition punctum studium. Eh bien, c'est aussi du cinéma que naît, au fond, une vraie réflexion sur la photographie comme espace sémiologique nouveau, qui crée une rupture, en effet, dans la culture humaine par la reproduction, je dirais, du ça a été. Donc, je prolonge un peu ton propos en soutenant ton intervention et en voyant combien ce point-là est stratégique dans le livre et combien tu as raison de le développer. Enfin, vraiment.
Merci. Moi, je tenais beaucoup à cette idée de la musique.
Oui. Alors, j'allais juste dire que dans notre conversation qu'on a eue le 14 novembre, où Paolo nous avait exposé au restaurant son propos, il y avait, en effet, la musique n'était pas apparue, donc c'est vraiment la nouveauté qui apparaît aujourd'hui grâce à cette nouvelle séance, ce thème de la musique. Et voilà, peut-être que maintenant qu'on a amorcé un peu la discussion, je voudrais voir si dans la salle il y a des interventions.